Une page du chapitre de la vanité, mais en un relief curieux, cette transposition dans le temps par laquelle Montaigne s'efforce de satisfaire au sentiment de grandeur, inséparable en lui de l'amitié survivante de la Boétie. J'ai attaqué sans querelle pour la défense de Pompée et pour la cause de Brutus. Cette accointance dure encore entre nous. Les choses présentes même, nous ne les tenons que par la fantaisie. Me trouvant inutile à ce siècle, je me rejette à cet autre. Et j'en suis si ayant babouiné que l'état de cette vieille Rome, libre, juste et florissante, car je n'en aime ni la naissance ni la vieillesse, m'intéresse et me passionne. À plus forte raison, les belles âmes, et ce sont les âmes universelles ouvertes et prêtes à tout, sinon instruites, au moins instruisables, devront-elles se plaire dans le commerce familier des philosophes, grands précepteurs du monde, de qui elles pourront se rapprocher, sans avoir à compter avec les circonstances du dehors et les caprices de la fortune. Il est de l'essence du jugement qu'il se suffise à lui-même, tourné vers la vérité dont la voie une et simple ne se refuse à personne, puisque chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Aucun obstacle infranchissable ne s'adresserait plus entre Montaigne et la loi qu'il se prescrit. Il faut que notre conscience s'amende elle-même par renforcement de notre raison, non par l'affaiblissement de nos appétits. Montaigne entre donc à l'école des penseurs grecs et romains. Mais la sincérité de son admiration ne lui dissimule pas leurs divergences constantes. Les écrits des anciens, je dis les bons écrits, pleins et solides, me tentent et remuent quasi où ils veulent. Celui que je vois me semble toujours le plus roide. Je les trouve avoir raison chacun à son tour lorsqu'ils se contrarient. Le rappel de ces contrariétés remplira l'apologie de Raymond Sebond. Passons par-dessus le combat si violent et si âpre qui se dresse sur la question du souverain bien de l'homme, duquel, par le calcul de Varron, naquit 288 sectes. Considérons seulement, dans le domaine spéculatif où il semble que l'intérêt et la passion fassent silence, les conceptions de la nature qui ont obtenu quelques crédits dans l'Antiquité, depuis les idées de Platon ou les atomes d'Épicure, jusqu'aux parties similaires d'Anaxagore ou la discorde et l'amitié d'Empédocle ou le feu d'Héraclite. Comment avoir l'espérance de nous reconnaître et de nous fixer à travers cette confusion infinie d'avis et de sentences que produit cette belle raison humaine, par sa certitude et clairvoyance en tout ce de quoi elle se mêle ? Sans doute, la création de la syllogistique avait promis à son inventeur de dominer le chaos où s'agitent et se perdent les simples mortels. Le dieu de la science scolastique, c'est Aristote. C'est religion de débattre de ses ordonnances comme de celles de l'Épicure et à Sparte. Sa doctrine nous sert de loi magistrale. Malheureusement, le magistère d'Aristote s'arrête à la porte des collèges. Le culte que lui a voué le Moyen-Âge occidental ne s'adresse qu'à une idole. L'éloge finit en dérision. Loi magistrale, écrit Montaigne, qui est à l'aventure tout autant fausse qu'une autre. Et ce n'est pas une boutade. Montaigne a profondément médité. Nul n'a dénoncé de façon plus nette et péremptoire l'inconsistance des systèmes de panlogisme, passé, présent ou futur. La tentative d'appuyer sur l'exercice de la logique, le dogmatisme d'une physique et d'une métaphysique, n'a de rationnel que l'apparence. C'est un phénomène d'ordre sociologique où se manifeste, une fois de plus, le déclin d'une civilisation. La liberté donc et gaillardise de ces esprits anciens produisaient en la philosophie et sciences humaines plusieurs sectes d'opinions différentes, chacun entreprenant de juger et de choisir pour prendre parti. À présent, les hommes vont tout un train. Nous recevons les arts par civile autorité et ordonnance, si que les écoles n'ont qu'un patron et pareille institution circonscrite. D'où vient qu'on ne regarde plus ce que les monnaies pèsent et valent, mais chacun à son tour les reçoit selon le prix que l'approbation commune et le cours leur donnent. De quel droit, cependant, le préjugé d'un sentiment collectif usurperait-il la place qui revient à la vérité seule ? Quand on a le courage d'examiner en elle-même les choses et les idées, on s'aperçoit qu'il est bien aisé sur des fondements avoués, c'est-à-dire dans notre langage d'aujourd'hui accordé à titre d'axiome, de bâtir ce qu'on veut. Car selon la loi et ordonnance de ce commencement, le reste des pièces du bâtiment se conduit aisément sans se démentir. Par cette voie, nous trouvons notre raison bien fondée et discourons à boule vue, sans obstacle. Car nos maîtres préoccupent et gagnent avant main autant de lieux en notre créance qu'il leur en faut pour conclure après ce qu'ils veulent, à la mode des géomètres, par leurs demandes avouées. Le consentement et approbation que nous leur prêtons leur donne de quoi nous traîner à gauche et à dextre, et nous pirouetter à leur volonté. Quiconque est cru de ces présuppositions, il est notre maître et notre Dieu. Il prendra le plan de ces fondements si amples et si aisés que, paresseux, il nous pourra monter, s'il veut, jusqu'aux nues. La division du travail et la hiérarchie des compétences viennent au secours de cette perpétuelle pétition de principe pour en consolider l'arbitraire. En cette pratique et négociation de science, nous avons pris pour argent comptant le mot de Pythagore, que chaque expert doit être cru en son art. Le dialecticien se rapporte au grammairien de la signification des mots, le rhétoricien emprunte du dialecticien les lieux des arguments, le poète du musicien les mesures, le géomètre de l'arithméticien les proportions, les métaphysiciens prennent pour fondement les conjectures de la physique. Car chaque science a ses principes présupposés par où le jugement humain est bridé de toutes parts. Si vous venez à choquer cette barrière en laquelle gît la principale erreur, ils ont à continuant cette sentence à la bouche qu'il ne faut pas débattre contre ceux qui nient les principes. En dernière analyse, la structure d'un système corporatif commande du dehors la décision du jugement, qui ne devrait jaillir que de l'intimité de la réflexion. Mais celui-là seul pourrait se plaindre d'être enfermé dans les murs de la dialectique qui aurait consenti au régime de la servitude volontaire. À ceux qui combattent par présupposition, il leur faut présupposer au contraire le même axiome de quoi on débat, car toute présupposition humaine et toute énonciation a autant d'autorité que l'autre si la raison en fait la différence. Ainsi, il les faut toutes mettre à la balance, et premièrement les générales et celles qui nous tyrannisent. L'assurance dogmatique ne nous a donc pas en imposer. La pression de la certitude est un certain témoignage de folie et d'incertitude extrême, et n'est point de plus folle gens ni moins philosophes que le philodoxe de Platon. Regardez d'ailleurs, tantôt comme orthodoxe, tantôt comme hétérodoxe. Il est advenu aux gens véritablement savants ce qui advient aux épis de blé. Ils vont s'élevant et se haussant, la tête droite et fière tant qu'ils sont vides. Mais quand ils sont pleins et grossis de grains en leur maturité, ils commencent à s'humilier et à baisser les cornes. Aussi bien, pour l'excuse des grands philosophes de l'Antiquité, Montaigne avance un argument inattendu. Je ne me persuade pas aisément qu'Épicure, Platon et Pythagore nous aient donné pour argent comptant leurs atomes, leurs idées et leurs nombres. Ils étaient trop sages pour établir leurs articles de foi de choses si incertaines et si débattables. On voit en tout cas à quel point la critique de la raison est chez Montaigne précise et avertie. Elle applique essentiellement la distinction, dont Descartes et Pascal hériteront, entre deux sens du mot correspondant à deux attitudes différentes de l'esprit. D'une part, la raison en tant que capacité de trier le vrai, fonction du jugement libre. D'autre part, une raison qui s'empare de l'énoncé de proposition quelconque pour y appliquer les règles de la déduction logique. La scolastique confond les rôles. Elle prétend conférer une valeur d'absolu à des conclusions dialectiques qui reflètent purement et simplement le choix tel quel des prémices. Comme si l'avocat, condamné par sa profession même à faire de l'entendement un instrument souple et erratique, c'est le soulier de terre amène bon à tout pied, était habilité à dire le droit à s'arroger le privilège de l'arbitre, inflexible et impassible. Elle suppose que de l'abstraction de la forme, le passage s'opérera de lui-même à la réalité du fond. Or la distance n'a paru franchie que par un appel au pouvoir créateur et vain de l'imagination. Il est bien aisé à vérifier que les grands auteurs écrivant des causes ne se servent pas seulement de celles qu'ils estiment être vraies, mais de celles encore qu'ils ne croient pas, pourvu qu'elles aient quelque invention et beauté. Tout ceci revient à dire que nous ne sommes effectivement instruits que par le contact direct avec la nature. Seulement, a-t-on fait autre chose que déplacer la difficulté? L'expérience réduite, comme chez les anciens, aux données de l'observation immédiate, suffit-elle pour mettre l'homme en possession assurée de l'ordre du monde? Montaigne se réfère à la pratique médicale de son temps. L'expérience est proprement sur son fumier au sujet de la médecine où la raison lui quitte toute la place. Les leçons s'en transmettent à travers les générations. L'idée d'un progrès nécessaire, qui devait se développer avec Francis Bacon et Blaise Pascal, est indiquée dans l'Apologie de Raymond Semon. Ce qui était inconnu à un siècle, le siècle suivant l'a éclairci. Et quel que soit le ressentiment de Montaigne contre les médecins coupables de lui avoir tué un ami qui valait mieux que tout, ils tournent leur ruse thérapeutique au profit de sa morale. Quand les médecins ne peuvent purger le catarrhe, ils le divertissent et le dévoient à une autre partie moins dangereuse. Je m'aperçois que c'est aussi la plus ordinaire recette aux maladies de l'âme. On sait à quel point Pascal a été frappé de cet avertissement. Cependant, la question demeure. Ce que nous avons observé dans un premier cas permet-il de prévoir ce qui se produira dans un second? Il le faudrait bien pour être en droit de reconnaître à la médecine la dignité d'un savoir véritable. Or, l'analyse des conditions effectives de l'expérience dissipe cet espoir. Plus avisé que devait l'être John Stuart Mill, Montaigne a bien compris que l'univers ne s'offre nulle part à nous avec l'uniformité qui serait nécessaire pour donner quelque appui dans le réel à la simplification schématique des procédés inductifs. J'imagine l'homme regardant autour de lui le nombre infini des choses, plantes, animaux, métaux. Je ne sais par où lui faire commencer son essai. Il lui est proposé tant de maladies et tant de circonstances avant qu'il soit venu à la certitude de ce point où il doit joindre la perfection de son expérience. Le sens humain, il perd son latin. En prétendant atteindre un ordre déterminé à partir de l'exemple, miroir vague, universel et à tout sens, on est entraîné à négliger les occasions indivinables qui surviennent dans un événement particulier et qui lui impriment, comme à chacune de nos humeurs et à chacun de nos desseins, un caractère d'originalité irréductible. Dans l'édition de 1580, les essais se terminent par ces mots. Et ne fut jamais au monde deux opinions pareilles, non plus que deux poils ou deux grains. Leur plus universelle qualité, c'est la diversité. La critique de l'empirisme médical est aussi méthodique et profonde que celle du rationalisme philosophique. Toutes choses se tiennent par quelques similitudes. Tout exemple cloche et la relation qui se tire de l'expérience est toujours défaillante et imparfaite. On s'explique alors comment les médecins, déboutés de leur idéal scientifique, ont établi cette bonne règle en leur art et qui accompagne tous les arts fantastiques, vains et supernaturels, qu'il faut que la foi du patient préoccupe par bonne espérance et assurance leur effet et opération. De là cette grimace rébarbative et prudente de leur port et contenance. Le choix même de la plupart de leurs drogues est aucunement mystérieux et divin. Le pied gauche d'une tortue, l'urine d'un lézard, la fiente d'un éléphant, le foie d'une taupe, du sang tiré sous l'aile droite d'un pigeon blanc. Et pour nous autres coliqueux, dont ils abusent dédaigneusement de notre misère, des crottes de rats pulvérisées et telles autres singeries qui ont plus le visage d'un enchantement magicien que de science solide. Le crédit d'une médecine ainsi pratiquée ne pourra que contribuer à la perversion de l'opinion publique. Montaigne se plaint et s'indigne. On reçoit la médecine comme la géométrie, et les battelages, les enchantements, les liaisons, le commerce des esprits, les trépassés, les prognostications, les domifications, et jusqu'à cette ridicule poursuite de la pierre philosophale, tout se met sans contredit. Mais le mouvement de colère s'apaise dans l'ironie. Puisque toutes choses nous sont occultes, avouons que l'humaine science ne se peut maintenir que par raison déraisonnable, folle et forcenée. Ce qui ressort en fin de compte, c'est que l'entendement et les sens entretiennent un commerce de piperie mutuelle. D'une part, l'homme se crée à lui-même un royaume de rêverie et de songe, qu'il décore du nom de raison. Et Montaigne, voulant montrer comment notre esprit s'empêche soi-même, invoque en témoignage les propositions géométriques qui concluent par la certitude de leur démonstration, le contenu plus grand que le contenant, le centre aussi grand que la circonférence. Mal on dit quand la géométrie, qui pense avoir gagné le haut point de certitude parmi les sciences, il se trouve des démonstrations inévitables subvertissant la vérité de l'expérience. Comme Jacques Pelletier me disait chez moi qu'il avait trouvé deux lignes s'acheminant l'une vers l'autre pour se joindre, qu'il vérifiait toutefois ne pouvoir jamais, jusqu'à l'infinité, arriver à se toucher. Égaré par sa propre raison, l'homme n'est pas plus heureux en se rejetant du côté des sens. Il ne peut fuir que les sens ne soient les souverains maîtres de sa connaissance, mais ils sont incertains et falsifiables à toutes circonstances. Le procès du réalisme qui fait fond sur les données sensibles pour pénétrer jusqu'à l'essence des choses est dans l'argumentation de l'apologie une pièce maîtresse qui reparaîtra au seuil des méditations cartésiennes, au cœur des pensées de Pascal. Après tout, nous ne serions non plus qu'une pierre si nous ne savions qu'il y a son, odeur, lumière, saveur, mesure, poids, mollesse, dureté, âpreté, couleur, polissure, largeur, profondeur. Voilà le plan et les principes de tout le bâtiment de notre science. Or, si c'est là, en effet, la base de tout notre savoir, la solidité de l'édifice ne résistera pas à l'examen. Pour avoir une valeur de vérité, la perception sensible devrait apporter avec elle la garantie qu'elle conserve fidèlement l'impression de l'objet qui, par hypothèse, l'aurait produit. Et c'est de quoi il lui est impossible de fournir la preuve. Tout ce qui se connaît, il se connaît sans doute par la faculté du connaissant. Car puisque le jugement vient de l'opération de celui qui juge, c'est raison que cette opération, il la parfasse par ses moyens et volontés, non par la contrainte d'autrui comme il adviendrait si nous connaissions les choses par la force et la loi de leur essence. N'est-ce pas un fait d'observation courante que d'un individu à l'autre, d'un instant à l'autre chez un même individu, la structure particulière des organes, l'état de maladie ou de santé, la disposition du jour et de l'heure, entrent en jeu de façon à modifier la physionomie que revêtent les objets? Et il ne s'agit pas d'accident qu'il est aisé d'éliminer pour faire place à l'exercice normal de la connaissance. Comment serait-il légitime d'attribuer à un sens déterminé le privilège d'atteindre le réel, alors que nos sens mêmes s'entrepêchent l'un l'autre? Une pâture semble élevée à la vue, au maniement elle semble plate. Le miel est plaisant au goût, mal plaisant à la vue. Ce n'est pas tout encore. Le chapitre des sens ne tient pas dans les limites de l'expérience humaine. En cette faculté, les animaux ont autant ou plus de droits que nous. Non seulement. Il est certain qu'aucun en l'ouïe plus aigu que l'homme, d'autres la vue, d'autres le sentiment, odorat, d'autres l'attouchement ou le goût. Mais on doit se demander s'il n'y a pas les espèces douées de quelque ordre de perception que l'homme ne possède pas. C'est à l'aventure quelques sens particuliers qui découvre au coq l'heure du matin et de minuit et les émeut à chanter, qui apprend aux poules, avant tout usage et expérience, de craindre un épervier et non une oie ni un paon, plus grande bête, qui avertit les poulets de la qualité hostile qui est au chat contre eux et à ne se défier du chien, s'armer contre le miaulement, voix aucunement flatteuse, non contre l'aboyer, voix âpre et querelleuse. Aux frelons, aux fourmis et aux rats de choisir toujours le meilleur fromage et la meilleure poire avant que d'y avoir tâté. Et qui achemine le cerf, l'éléphant, le serpent à la connaissance de certaines herbes propres à leur guérison. La condition des merveilles de l'instinct ouvre à l'esprit des perspectives inattendues. Nous saisissons la pomme quasi par tous nos sens. Nous y trouvons de la rougeur, de la polissure, de l'odeur et de la douceur. Outre cela, elle peut avoir d'autres vertus, comme d'assécher ou restreindre, auxquelles nous n'avons point de sens qui se puisse rapporter. Les propriétés que nous appelons occultes en plusieurs choses, comme à l'aimant d'attirer le fer, n'est-il pas vraisemblable qu'il y a des facultés sensitives en nature, propres à les juger et à les apercevoir, et que le défaut de telle faculté nous apporte l'ignorance de la vraie essence de telle chose? Nous avons formé une vérité par la consultation et concurrence de nos cinq sens. Mais à l'aventure, fallait-il l'accord de 8 ou de 10 sens et leur contribution pour l'apercevoir certainement et en son essence? Il ne suffit plus de dire que l'erreur et l'incertitude de l'opération des sens portent simplement sur des qualités inhérentes aux objets sensibles. C'est leur réalité qui est en cause. Notre raison et notre âme, recevant les fantaisies et opinions qui lui naissent en dormant et autorisant les actions de nos songes de pareille approbation qu'elle fait celle du jour, pourquoi ne mettons-nous pas en doute si notre pensée et notre agir n'est pas un autre songer et notre veillée quelque espèce de dormir? Nous veillons dormant et veillant dormant. Le sensualisme se réfute donc lui-même, en tant du moins qu'il se présente sous un aspect dogmatique. Et c'est parce qu'il l'interprète ainsi que Montaigne arrive à écrire « Vraiment, Protagoras nous en comptait de belles, faisant l'homme la mesure de toute chose qui ne sut jamais seulement la sienne. » Mais Platon a-t-il sans doute mieux compris la maxime de Protagoras qui consiste à faire évanouir l'objet dans l'insaisissable mobilité du sujet, ce qui est exactement la pensée de Montaigne. Et nous et notre jugement et toute chose mortelle vont coulant et roulant sans cesse. Ainsi, il ne se peut établir rien de certain de l'un à l'autre, et le jugeant et le jugé étant en continuelle mutation et branle. De fait, le primat du jugement que la philosophie a légitimement et loyalement proclamé lui impose une exigence qui dépasse sa capacité. Pour juger les apparences que nous recevons des sujets, il nous faudrait un instrument judicatoire. Pour vérifier cet instrument, il nous y faut de la démonstration. Pour vérifier la démonstration, un instrument. Nous voilà au rouet. Puisque les sens ne peuvent arrêter notre dispute, étant plein eux-mêmes d'incertitude, il faut que ce soit la raison. Aucune raison ne s'établira sans une autre raison. Nous voilà à reculons jusque à l'infini. Dès lors, rien ne subsiste plus qui permette de fonder et d'ordonner le bâtiment de la connaissance. Le plus sage homme qui fut Oncq, quand on lui demanda ce qu'il savait, répondit qu'il savait cela qu'il ne savait rien. S'inspirant de Socrate, les académiciens renvoient dos à dos thèse et antithèse, que ce soit l'idéalisme mathématique, professé par les écoles de Pythagore ou de Platon, ou le réalisme physique, auquel s'attachent les péripatéticiens, que ce soit le plein, évident pour les stoïciens, ou le vide, manifeste pour les épicuriens. Même détachement chez Montaigne. Les révolutions de pensée qui, dès son époque, préparent ce qui marquera au siècle suivant la vraie et définitive renaissance des valeurs spirituelles, ne l'intéressent que dans la mesure où elles favorisent sa profession d'agnosticisme. Le ciel et les étoiles ont branlé 3000 ans, tout le monde l'avait ainsi cru, jusqu'à ce que Cléante, le Samien, ou selon Théophraste, Nicétas Syracusien, s'avisa de maintenir que c'était la terre qui se mouvait par le cercle oblique du zodiaque tournant alentour de son essieu. Et de notre temps, Copernicus a si bien fondé cette doctrine qu'il s'en sert très règlement à toutes les conséquences astronomiques. Que prendrons-nous de là, sinon qu'il ne nous doit chaloir lequel le soit des deux? Et qui sait que nos tierces d'opinion d'ici à 1000 ans ne renverse les deux précédentes? Encore, les académiciens avouaient-ils les unes choses plus vraisemblables que les autres et recevaient en leur jugement cette faculté de se pouvoir incliner plutôt à une apparence qu'à une autre? L'avis des Pyrrhoniens est plus hardi et, quant et quand, plus vraisemblable. Lorsqu'ils prononcent « j'ignore ou je doute », ils disent que cette proposition s'emporte elle-même, quand et quand le reste, ni plus ni moins que la rhubarbe qui pousse hors les mauvaises humeurs et s'emporte hors camp et camp elle-même.